La suite du grand jury RTL Le Figaro LCI, invité la présidente socialiste de la région Poitou-Charentes, Ségolène Royal. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis.
Avec Étienne Moujotte et Frédéric Delpech, retour dans le grand studio d'RTL pour la deuxième partie de ce grand jury, toujours en compagnie de Ségolène Royal. On va parler du Parti Socialiste, de son projet, puis si vous le voulez bien, de vous. On a vu vos larmes au soir du premier tour de la primaire, et on a vu également que très vite vous étiez revenu au combat. Vous avez dit « je n'ai pas tiré un trait sur ma vie politique ». Quelle forme va prendre votre vie politique dans les mois qui viennent ?
Vous savez, mon itinéraire personnel n'a pas grande importance par rapport à ce que les Français vivent aujourd'hui et par rapport à ce qu'ils attendent.
On est curieux de savoir quelle sera votre place dans le dispositif.
Vous êtes curieux de savoir quelle est ma place. Mais écoutez, moi, ce que je vais vous dire, c'est que les Français attendent l'alternance. Voilà, la France a rendez-vous avec son histoire en mai prochain. Et je veux que la France retrouve la fierté de cette histoire. Le bilan de Nicolas Sarkozy est catastrophique. D'ailleurs, la première partie de l'émission l'a montré en filigrane. Il est catastrophique sur tous les plans. Et ce que l'on a beaucoup entendu, d'ailleurs, au cours de ces derniers mois, c'est une très forte inquiétude des Français qui nous ont dit, finalement, on nous a tout pris pendant ces 5 ans. On nous a pris notre système de retraite, on nous a fragilisé la sécurité sociale, on ne nous a même pas garanti la sécurité au quotidien, alors que c'était présenté comme un monopole de savoir-faire de la droite. On nous a pris notre pouvoir d'achat. Jamais il n'y a eu autant de familles en situation de surendettement qu'aujourd'hui. On nous a même fragilisé notre école. Mais qu'est-ce qui reste du modèle français ? Et donc, notre responsabilité à gauche, c'est de redéfinir les valeurs et les fondamentaux d'un modèle français qui va permettre aux citoyens de reprendre confiance dans leur avenir. Donc, il y a un travail formidable à faire. Le succès des primaires a montré qu'il y avait une force citoyenne, un élan démocratique pour le faire, qui a donné la légitimité à notre candidat, François Hollande. Et aujourd'hui, nous avons à nous remettre au travail pour l'aider à présenter le meilleur projet présidentiel possible. Et je participerai à ce travail collectif.
Pardon de vous reposer des questions sur votre implication personnelle dans la campagne. Il se dit que, par exemple, vous pourriez faire une entrée un peu plus forte au secrétariat national, être doté d'une mission, ce qui porterait sur une des grandes réformes d'un éventuel gouvernement Hollande. Qu'en sera-t-il donc de votre rôle dans la campagne ? Et puis, d'autre part, est-ce que, par exemple, vous souhaiteriez, juste après la présidentielle, vous présenter aux élections législatives et revenir, en quelque sorte, à l'Assemblée nationale ?
Mais je vous le dis, une fois de plus, c'est très embarrassant de parler des itinéraires personnels. En même temps, je ne veux pas non plus passer à côté de vos questions. Je suis une responsable politique de premier plan et c'est normal que vous me posiez cette question. Donc effectivement, j'ai eu des discussions avec les uns et avec les autres. Et effectivement, on m'a demandé d'aider à la campagne en rentrant dans la direction du parti. Donc j'ai une discussion avec Martine sur ce sujet et je rentrerai en effet à la direction du parti, pour aider le Parti Socialiste à épauler le candidat à l'élection présidentielle, notre candidat.
Et est-ce que vous serez candidate aux législatives ?
Écoutez, vous êtes bien curieux, surtout.
Ouais, ça m'a bien envie de savoir tout cela.
Voilà, ça m'a bien envie. Mais parce qu'il se disait, par exemple, avant la campagne des primaires, que vous auriez pu être intéressé, par exemple, par la présidence de l'Assemblée nationale. Donc, pour être président de l'Assemblée nationale, il faut d'abord redevenir député.
Oui.
Donc, est-ce que, par exemple,
vous... Le problème politique, vous savez, moi, je suis engagée depuis 30 ans en politique. Je l'ai toujours fait avec une très grande hauteur de vue, avec le sens de l'intérêt général. Ça explique d'ailleurs le choix que j'ai fait entre les deux tours des primaires. Je n'ai été dictée que par l'intérêt supérieur du pays et savoir qu'est-ce qui est le mieux pour le pays. Et donc, je vous ferai la même réponse pour ce qui me concerne. J'irai là où je serai le plus utile pour le pays. Et puisque vous me posez la question, c'est vrai que j'ai l'intention, en effet, de participer au combat législatif, puisque je n'ai pas été retenue pour l'exécutif. Et c'est vrai que je suis une femme politique engagée. Donc, sans doute, oui, je serai candidate aux élections législatives.
Vous serez candidate aux législatives dans les Deux-Sèvres ?
Dans ma région.
Dans votre région.
Et si on va dans la logique jusqu'au bout, pour appliquer le non-cumul des mandats, est-ce que vous quitteriez, par exemple, la présidence de Poitou-Charentes si vous étiez élu député ?
De toute façon, j'ai toujours appliqué ce principe avant même qu'il soit rendu obligatoire par la loi. Voilà, donc là, il y aura deux hypothèses. Ou j'exerce mon mandat jusqu'à son terme, puisque les électeurs me font confiance, et c'est un mandat très raccourci, puisque c'est un mandat de 4 ans. ou je l'exerce jusqu'à son terme, ou je le transmets à un vice-président, puisqu'à ce moment-là, il y a un vote interne. Donc, je verrai à ce moment-là avec mes équipes ce qu'il convient de faire.
Et puisqu'on en parle, est-ce que vous faites confiance à François Hollande pour mettre fin au cumul des mandats dans la loi ?
Oui, puisqu'il s'y est engagé.
C'est l'euphorie au PS, et on entend beaucoup, 2012, c'est imperdable, impossible de perdre. Alors, est-ce que vous le pensez, éventuellement, le cas échéant, qu'est-ce qui pourrait vous faire perdre, si jamais la question est aujourd'hui pertinente, je me le demande par moment.
Écoutez, moi je n'ai entendu pour l'instant personne au Parti Socialiste.
Moi je n'entends que ça.
Eh ben,
vous-même avez dit dans le Parisien, je crois que c'est bien parti.
Ah, c'est bien parti, non, ça ne veut pas dire que c'est une élection imperdable. Non. Aucune élection n'est imperdable. Aucune. Et d'ailleurs, je mets en garde quiconque s'exprime de cette façon-là, parce que c'est le meilleur moyen de perdre une élection. De penser qu'elle est gagnée avant même d'avoir respecté les électeurs. En revanche, c'est vrai que les choses se présentent plutôt positivement, non seulement parce qu'il y a un rejet terrible de l'équipe qui est en place, qui, pendant 5 ans, s'est servi au lieu de servir le pays, que la crise profonde est là, on l'a vu, la crise économique, la crise sociale, la crise écologique, la crise morale, qu'il y a une confusion des pouvoirs, et donc les Français ne veulent plus de ce système, ne veulent plus de ce régime. Et donc nous devons être à la hauteur de cette alternance. Ensuite, parce que nous avons un bon candidat à l'élection présidentielle, que nous avons un projet, et que surtout que les socialistes sont rassemblés. Et ça, c'est la force principale aujourd'hui de la gauche, c'est le rassemblement des socialistes qui sont unis et qui vont devoir ensuite construire un programme de gouvernement avec d'autres forces politiques.
Ce rassemblement, est-ce que ce sont juste les circonstances ou est-ce que c'est lié aussi à la personnalité de François Hollande ?
Je crois qu'il y a les deux. Il y a les circonstances. Il y a les mauvais souvenirs de 2007, que chacun reconnaît aujourd'hui, où la division a affaibli la candidate. En tout cas, moi, je fais aujourd'hui, dans la dynamique de rassemblement et d'union et de soutien, ce que j'aurais aimé avoir en 2007. Donc, vous voyez, je crois que ces comportements-là sont directement liés à ce qui s'est mal passé en 2007. Et donc, aujourd'hui, tout le monde est conscient, à la fois de la fragilité des désaccords et des désunions, et en même temps de la force que donnent l'union et le rassemblement.
Étienne Moulot.
Pour revenir au contenu, au programme, à la politique, ce qui est important, on a parfois un peu de peine à comprendre si François Hollande va appliquer le projet socialiste ou bien, comme ça, piquer quelques petites choses et puis faire avec, comme on dit. Quel est votre sentiment ?
Il s'est exprimé sur ce sujet-là. Au bureau
ça
national d'ailleurs.
Le projet socialiste.
C'est une base, le projet socialiste. Ça nous engage. En même temps, la situation économique change très rapidement. D'une part. Et d'autre part, un projet du Parti Socialiste, ce n'est pas un projet du candidat à l'élection présidentielle. Donc ce qui a été mis en place, ce sont des groupes de travail complémentaires qui vont être animés donc cette fois-ci par le candidat qui sera chargé de porter ce projet devant les Français, à partir bien évidemment du socle que représente le projet des socialistes, à partir aussi des idées neuves qui ont émergé au cours de la campagne des primaires, et enfin à partir des décisions et des choix que fera le candidat avec son équipe.
Il y a quelques mesures emblématiques.
J'imagine qu'en début d'année prochaine, il se présentera devant les Français avec son projet. Mais il a déjà d'ailleurs tracer les grands axes de ce projet dans les différents pactes qu'il a avancés, le pacte productif, le pacte éducatif, la priorité pour la jeunesse, la réforme fiscale. Donc il a, dans son discours de dimanche, déjà arrêté les grands axes de ses priorités politiques.
Mais est-ce qu'il y a des points, je pense par exemple aux 300 000 emplois d'avenir, qui ne faisaient pas forcément consensus au sein du PS, qui sont non négociables ? Qu'est-ce qui va advenir de ces 300 000 emplois d'avenir qui sont inscrits aujourd'hui au projet socialiste ?
Mais les choses ne se posent pas en termes de négociables ou de pas négociables. Les choses se posent en termes de qu'est-ce qui est utile aux Français ? Qu'est-ce qui est prioritaire ? Qu'est-ce que l'on peut financer ? Et comment on va faire ?
Alors, est-ce que ces emplois d'avenir sont aujourd'hui utiles aux Français ?
Oui, les emplois d'avenir sont utiles aux Français à condition qu'ils soient implantés dans les endroits où l'on a le plus besoin et où les emplois productifs ou les emplois des entreprises, les emplois du marché ne peuvent pas s'implanter. Par exemple, dans les secteurs défavorisés, que ce soit les secteurs urbains ou les secteurs ruraux, par exemple dans les services de proximité d'intérêt général, où la demande n'est pas forcément solvable, par exemple dans un certain nombre de domaines liés à la protection de l'environnement, où une première étape d'emploi peut permettre ensuite de déboucher sur des emplois durables. On l'avait vu avec les emplois jeunes. On a vu la même critique avec les emplois jeunes. J'en sais quelque chose. J'étais ministre de l'enseignement scolaire lorsque j'ai mis en place les emplois jeunes dans l'école. On nous disait, la droite disait, c'est une catastrophe, ça va ruiner les comptes publics, ça ne sert à rien, on va fabriquer des jeunes qui seront des assistés pour toute leur vie. Or, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, au bout de 6 mois, un jeune sur 3 qui, grâce à cette expérience professionnelle, c'est-à-dire cette première étape, cette première chance qu'on lui donnait de faire valoir ses savoir-faire, déboucher, sortir du système des emplois jeunes et aller dans les entreprises trouver un travail rémunéré, durable, avec des contrats à durée indéterminée. Et aujourd'hui, on est dans une société qui est si sévère à l'égard des jeunes, j'allais dire si féroce, si fermés à l'égard des jeunes, on leur demande à la fois d'avoir une expérience professionnelle et quand ils n'en ont pas, on ne les recrute pas. C'est vrai que des emplois parapublics peuvent donner à ces jeunes l'occasion de faire valoir leur savoir-faire et donc ensuite de déboucher sur une activité ou sur un emploi durable.
On évoquait dans la première partie de cette émission la réduction de la prévision de croissance pour l'an prochain. Est-ce que vous considérez que le projet du Parti Socialiste tel qu'il est défini aujourd'hui intègre suffisamment les réductions de dépenses qui seront sans doute nécessaires? Est-ce qu'il faut aller un petit peu au-delà de ce qui a été défini dans le projet socialiste? Est-ce qu'il faut des mesures emblématiques et fortes? Est-ce que vous en souhaiteriez à titre personnel?
Oui, je crois qu'il faudra aller au-delà. Parce que le projet socialiste a été fait à un moment où, en effet, où la situation n'était pas encore dégradée. On est tellement mal gouverné que c'est de semaine en semaine que la situation économique et financière se dégrade. Dégradation
ailleurs,
des comptes
ailleurs
publics.
Aussi, hein.
Ailleurs aussi,
aux
peut-être.
Aux États-Unis aussi.
Écoutez, si on dit
et même en Chine.
Essayons de ne pas nous aligner sur ce qu'il y a de pire. Essayons de nous aligner sur ce qu'il y a de mieux. Et d'ailleurs, je voudrais dire qu'aujourd'hui, nous allons probablement assister à l'élection de Cristina Kirchner en Argentine. Pour son deuxième mandat, ça me fait particulièrement plaisir parce que c'est une amie et j'avais participé à sa précédente campagne présidentielle. Et on se souvient, puisqu'il faut trouver quelques bons exemples, que l'Argentine, à une époque, était à genoux. Et je me souviens avoir discuté...
Parlons du projet socialiste.
Non, mais c'est
parce
important,
que la question est...
parce qu'on nous dit, ça va mal en France, mais ça va mal ailleurs. Mais il y a des pays où ça va mieux. Et en Amérique latine, ça va beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'à un moment... Et c'était vrai aussi au Brésil de Lula, et c'était vrai sous Kirchner, c'est qu'à un moment où le Fonds monétaire international a dit à ces pays, vous allez supprimer vos retraites, vous allez supprimer la sécurité sociale, vous allez supprimer l'école, parce qu'il faut de l'austérité pour remettre à plat vos comptes publics. Et un jour, ils en ont eu assez. Et Lula lui-même a raconté qu'un jour, quand il en a eu assez de voir son peuple à genoux, il a dit maintenant, ça suffit, je reprends le contrôle sur mes banques. Les banques vont se mettre au service de l'économie. Ils ont éjecté le Fonds monétaire international de leurs interventions et ils ont redressé leur économie. Aujourd'hui, voilà des pays qui ont en taux de croissance entre 8 et 10% de taux de croissance. Et Lula a fini son mandat avec 80% de popularité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi un volontarisme politique qui peut être efficace. Et quand on laisse cette politique-là du chien crevé au fil de l'eau, en se disant, les banques, on ne peut rien y faire, le marché, on ne peut rien y faire, la résistance à la désindustrialisation, on ne peut rien faire, on voit que dans d'autres pays, on se dit, si, il y a d'autres façons de faire, il y a un État qui peut intervenir dans les entreprises stratégiques industrielles. Il y a des plans de réindustrialisation du pays qui sont possibles. Il y a des mutations écologiques qui sont productrices d'activités économiques et d'emplois. Et il y a des circuits financiers qu'il faut remettre au service de l'économie réelle.
Vous parlez de volontarisme. Je voudrais qu'on parle de François Hollande et de petites musiques qu'on entend, hein, une sorte de procès en indécision, y compris dans votre propre camp, y compris de votre part, Ségolène Royal. Il y a notamment des propos qui ont été tenus dans un documentaire sur Canal+, où vous parliez de la normalité revendiquée par François Hollande. Vous disiez c'est une forme de banalité, c'est une forme d'inaction. On utilise le mot normal pour dire dormez tranquille, bonnes gens, personne ne va vous embêter, on ne va rien bouger. Est-ce que c'était des propos de campagne? Est-ce qu'aujourd'hui ce sont des propos que vous regrettez?
Vu la façon dont ils sont interprétés, évidemment. Mais je dois dire aussi que les méthodes journalistiques sont parfois un peu étranges. Parce que vous savez, quand on ressort de son contexte des phrases qui en plus ont été dites sans malignité et dans une conversation qui a duré plus d'une heure, donc on voit, ma grande surprise d'ailleurs, j'ai vu ressortir des phrases comme ça, comme dans Le Figaro un jour, un matin, où je vois ressortir une phrase disant « François Hollande n'a rien fait en 30 ans », que c'est repris toute la journée sur des chaînes de télévision, et que si, je vous le dis, si ces phrases-là sont reprises dans la campagne présidentielle contre François Hollande, je les poursuivrai en justice. Pour divulgation de fausses informations. Et je ferai ressortir les bandes audiovisuelles qui me font dire des choses que je n'ai pas dites, en tout cas qui n'avaient pas cette portée-là.
Martine Aubry, par exemple, dit aussi sur le nucléaire, François Hollande, c'était peut-être d'un coup, peut-être d'un non. Voilà, vous avez donné des armes
malades. C'est pas bien méchant, ça, non plus. Quand
oui, mais c'est parce que c'est quelque chose qui monte en ce moment. La question de la capacité de François Hollande, son expérience, sa capacité à décider, voilà,
c'est pas méchant.
En tout cas, les Français ont décidé, déjà, puisqu'ils l'ont désigné comme étant notre candidat.
Par exemple, on parlait du parti socialiste, mais quand par exemple l'UMP et Claude Guéant estiment que François Hollande n'a pas la carrure pour être président de la République, qu'est-ce que vous répondez à ces arguments qu'on va sans doute entendre au fil des mois de la part de la droite?
Mais j'étais très étonnée d'entendre ça m'a fait rire, parce que j'ai cru à un moment qu'il parlait de moi. Vous vous souvenez pas que la droite disait ça déjà de moi en 2007? D'habitude, c'est un reproche que l'on fait aux femmes. Elle n'a pas la carrure, elle n'a pas le costume, etc. Donc il faut vraiment qu'ils se renouvellent, la droite, dans leurs accusations. Parce que sinon, on a du mal à comprendre si le film s'est rembobiné en arrière ou pas. Je vais vous dire une chose. C'est pas Monsieur Guéant, qui est englué jusqu'au cou dans des affaires douteuses, qui va aujourd'hui donner des quitus pour savoir qui est présidentiable et qui ne l'est pas. Ce sera le peuple français qui dira qui est présidentiable et qui ne l'est pas. Et j'espère que nous aurons, de ce point de vue, une bonne surprise.
Étienne Moulot.
Alors, sans renominer d'amende, est-ce que il ne serait pas le moment maintenant, pour vous, pour le PS, de dire, allez, on fait l'alliance avec Bayrou, on essaye de la faire avant le premier tour, plutôt que de négocier pendant le deuxième, parfois ça marche mal entre les deux tours. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux le faire maintenant?
Il n'a pas de projet. On fait des alliances sur la base de projets. Quand j'ai proposé à François Bayrou une alliance entre les deux tours, c'est parce qu'il avait fait une campagne très violente contre Nicolas Sarkozy. Donc j'ai pensé, en toute honnêteté intellectuelle, pensant trouver en face de l'honnêteté intellectuelle identique, que quelqu'un qui avait fait une campagne aussi virulente contre Nicolas Sarkozy allait s'allier à moi-même pour pouvoir le battre au second tour de l'élection présidentielle. Quelle n'a pas été ma surprise de le voir refuser. Donc aujourd'hui, François Bayrou, je ne sais pas s'il a fait des propositions d'alliance, mais en tout cas pour l'instant, il n'a pas de projet. Moi, je crois que les alliances tiennent sur des projets de gouvernement. Et notre priorité, c'est de faire alliance avec les écologistes.
C'est mal parti là pour l'instant. L'alliance avec les écologistes, elle a un peu du plomb dans l'aile. Si on en croit en tout cas Eva Joly,
Cécile Duflot encore ce matin,
qui réclament plus de gages sur la sortie du nucléaire, qui veulent également la proportionnelle, qui veulent l'abandon de l'aéroport de Nantes. Est-ce qu'il y a matière quand même à trouver un accord avec les écologistes?
Bien sûr, moi, je le souhaite profondément. Parce que l'écologie est une dimension essentielle de la mutation économique et de la sortie de crise. Et donc, si les écologistes mettent un certain nombre de conditions sur la table, mais c'est bien, ça veut dire que justement, il y a des choses dont on peut discuter, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Donc ça va faire l'objet de discussions, de précisions, et c'est sur cette base-là que émergeront des convergences qui nous permettront demain de gouverner ensemble.
Mais
et
Eva
de faire
Joly
en sorte
dit...
que la France prenne vraiment le tournant de la croissance verte et que la France devienne la première puissance écologique d'Europe. Voilà quel est mon souhait profond.
Eva Joly dit cette semaine au Japon, il n'y a pas d'accord électoral avec le PS s'il n'y a pas de sortie du nucléaire. Est-ce que le Parti Socialiste peut dire avant l'élection nous sortirons du nucléaire?
Le projet socialiste est très clair sur cette question, puisqu'il dit...
C'est sorti du tout nucléaire.
En tout cas,
il dit sorti
des nuances, en tout cas, entre les candidats.
C'est déjà très nouveau. Il dit sorti de la dépendance du nucléaire.
Ouais.
Les Verts disent sorti définitive du nucléaire. Donc, il y a un espace de discussion. Qu'est-ce qui est important? C'est de savoir comment on sort de la dépendance du nucléaire et peut-être du tout nucléaire. Je souhaite que l'on puisse sortir du nucléaire, personnellement. Mais jamais je ne pose ça comme condition idéologique préalable au fait de savoir comment nous sortons du nucléaire, à quelles conditions, et surtout comment est-ce que cette sortie du nucléaire nous permet de créer des activités et des emplois. Et c'est ça qui est intéressant dans la sortie nucléaire. Ça veut dire qu'il faut l'organiser de façon suffisamment astucieuse pour que nous puissions en même temps monter en puissance sur toutes les énergies renouvelables. Je voudrais vous donner qu'un seul exemple. L'Espagne vient d'inaugurer la première centrale, la plus grande centrale photovoltaïque. Savez-vous que cette grande centrale photovoltaïque, la plus grande d'Europe, repose sur des technologies françaises? Ces technologies françaises du solaire et du photovoltaïque, la France les possédait en 1983. C'est-à-dire en 1983, nous étions en France capables de construire ce que l'Espagne vient d'inaugurer aujourd'hui. Pourquoi
vous
est-ce
étiez,
que ça n'a
Vous étiez au pouvoir en 1983 d'ailleurs.
Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? Parce à cause du tout nucléaire précisément, à cause du monopole d'EDF qui n'a jamais voulu entendre qu'il y avait des solutions énergétiques alternatives et parce que tout a été mis sur le nucléaire. Et vous voyez que à la fois le monopole de la décision et le monopole d'un choix conduit toujours à une forme d'impasse, à une forme de gaspillage financier.
Il n'y a pas de diktat des écologistes finalement, parce qu'on a entendu des proches de François Hollande qui disaient non, on ne veut pas du diktat des écologistes. Là, à vous écouter, vous êtes plutôt sur une ligne conciliante avec les
Moi, je crois qu'il faut toujours discuter. Il faut toujours négocier, il faut toujours discuter. Pourquoi ? Parce que la vision des écologistes est une vision bonne pour l'avenir. Alors, il ne faut pas tomber dans l'idéologie de l'écologie non plus. Mais il n'y a aucune raison de leur faire un procès d'intention.
La décroissance ne vous gêne pas. L'idée qu'il faudrait un peu baisser la croissance, finalement.
C'est quand même ça qui est sous-jacent. Oui, vous avez raison. Moi, je n'utilise jamais cette expression. J'utilise l'expression de croissance sobre. C'est-à-dire qu'on peut avoir une croissance beaucoup moins qui fait beaucoup moins de gaspillage en énergie. On peut avoir une croissance sobre qui économise, qui recycle, qui met en place de l'économie circulaire, qui met en place des circuits courts. C'est une croissance sobre. La décroissance, c'est assez dangereux. Tout dépend ce que l'on met derrière. C'est assez dangereux puisqu'on ne va pas, en effet, produire moins de services et moins de biens, puisque l'objectif, comme de la politique, c'est donner davantage de bien-être, de bonheur aux hommes et aux femmes dont on a la responsabilité.
C'est Ségolène Royal, vous dites qu'il faut discuter avec les écologistes. Il faut discuter aussi avec Jean-Luc Mélenchon.
Mais bien sûr. Moi, j'ai discuté avec Jean-Luc Mélenchon sur 3 sujets, d'ailleurs. Sur la question des retraites. Nous étions d'accord pour faire un référendum sur la question des retraites, sur la question de la réforme bancaire, où je lui ai fait d'ailleurs parvenir le projet de loi que j'ai rédigé sur la réforme bancaire, et sur l'interdiction des licenciements boursiers, où là aussi nous sommes retrouvés sur cette question de l'interdiction des licenciements boursiers, qui est d'ailleurs maintenant dans le projet de François Hollande, du candidat.
Au fond, vous sentez plus proche de Jean-Luc Mélenchon que de François Bayrou aujourd'hui?
Moi, je me sens proche de ce qui est efficace et juste. C'est pour ça que j'ai une place un peu particulière, effectivement, dans la politique, puisque j'ai la modestie de reconnaître qu'il y a dans le front de gauche des bonnes propositions. Et en même temps, comme je l'ai fait sur le territoire que je préside, j'ai fait aussi une alliance avec des centristes humanistes, parce que je considère que toutes les bonnes idées doivent être mises au service de la communauté nationale. Et à l'égard des écologistes, j'ai un grand respect, parce que je me souviens, moi j'étais ministre de l'Environnement en 92, et déjà, c'était déjà très difficile. Je prônais déjà la voiture électrique. On me disait que j'étais une douce rêveuse et que c'était totalement irréaliste et que ça ne verrait jamais le jour. J'avais demandé que EDF consacre au moins 3% de son chiffre d'affaires, je m'en souviens, il y a 20 ans, au développement des énergies alternatives. Si j'avais été entendue aujourd'hui, la France ne serait pas dans cette situation-là et nous serions une puissance écologique. Donc, vous voyez, j'avais
un tout
une...
Petit mot. C'est juste, l'émission va bientôt se terminer, mais pendant la campagne, vous aviez proposé de donner un congé paternité de 5 ans à Nicolas Sarkozy. Alors, quel commentaire vous feriez après
C'était
la naissance
gentil, ça.
Bien évidemment, après la naissance donc du bébé du couple présidentiel.
Eh bien, d'abord je les en félicite très chaleureusement, je leur souhaite beaucoup de bonheur, c'est une grande joie de mettre un enfant au monde. Et je lui souhaite quand même de prendre ses 15 jours de congé de paternité dès qu'il aura réglé le problème de l'euro, bien évidemment mercredi. Donc à partir de jeudi, puisqu'il aura réglé le problème, il pourra prendre les 15 jours de congé de paternité que j'ai créé quand j'ai été ministre de la Famille.
Eh bien voilà, c'est sur cette note consensuelle que se termine ce grand jury. Ségolène Royal, que vous étiez l'invité d'LCI d'RTL ce soir. Bonne soirée, bonne semaine à tous.